Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 15 juillet 1815, Napoléon Ier s'embarque pour Sainte-Hélène. Le 29 juin 1815, le vaincu de Waterloo quitte le château de la Malmaison. Il n'est plus qu'un proscrit. Accompagné du général Nicolas-Léonard Becker, délégué du gouvernement provisoire, et du maréchal Henri Gatien Bertrand, le souverain déchu prend la route de Rochefort, où il espère s'embarquer pour l'Amérique. Dans la voiture, le silence règne. Pas un mot n'est échangé jusqu'à Rambouillet. Il fait nuit noire lorsque la voiture s'arrête devant le perron du château. L'empereur se couche après un souper improvisé. Le lendemain, à 6 heures, Napoléon et ses compagnons montent en calèche. Ils évitent la rue où, en dépit de l'heure matinale, une centaine d'habitants s'est massée. À vive allure, l'équipage rejoint la route de Chartres par le parc. Durant toute la journée, la course se poursuit sans histoire. Il fait chaud. Les voyageurs arrivent à Tours en fin de nuit. Poitiers est traversé sans incident. Mais la chaleur est telle que le souverain détrôné se repose 2 heures dans une maison de poste. À Niort, il descend à l'auberge de la Boule d'Or, au faubourg de Saint-Mexan. À son réveil, le dimanche 2 juillet, il regarde par la fenêtre des cavaliers qui soignent leurs chevaux. L'un d'eux lève la tête et le reconnaît. La nouvelle court rapidement la ville. Le préfet supplie Napoléon de s'installer à la préfecture. Il accepte. Au début de l'après-midi, il reçoit une lettre du préfet maritime de Rochefort qui l'informe que la rade est bloquée par une escadre anglaise. Arrivé à Rochefort, Napoléon hésite. Finalement, le 8 juillet, il part pour l'île d'Aix. Il y passe en revue le 14e régiment de marine et inspecte les nombreux ouvrages défensifs. La population l'acclame. Il s'installe dans la demeure édifiée en 1808 pour le commandement de l'île. Sa chambre, au premier étage, donne sur la rade des Basques, où est avancé le Bellérophon. La journée du 14 juillet est décisive. Le comte de Montholon la relate en ces termes. « Vers 2 heures du matin, l'empereur nous fit tous appeler, nous convoque en conseil privé, et nous dissimulant aucun des graves dangers de sa position, il nous soumit ces questions. Dois-je essayer cette nuit de me rendre à bord de la Béadère ou de traverser la croisière anglaise, soit avec le sloop du lieutenant Besson, soit avec la chaloupe des aspirants? Ne dois-je pas plutôt me résoudre à demander l'hospitalité à l'Angleterre? Le grand maréchal Bertrand, le duc de Rovigo, le comte de Las Casas, furent d'avis de se rendre à bord du Bellérophon en se faisant précéder par un aide-de-camp qui porterait en Angleterre une lettre autographe de l'empereur au prince régent. Le général Gourgaud et moi, nous fûmes les seuls d'un avis complètement opposé. Et nous nous efforçâmes à prouver qu'il était mille fois préférable de courir les chances qu'offrait la réponse franche et toute dévouée du capitaine Baudin, qui, disait-il, se chargerait de conduire l'empereur au bout du monde. En effet, si on ne réussissait à franchir la croisière et à gagner la terre d'Amérique, aller en Angleterre serait un pis-aller auquel on pourrait toujours revenir. C'était se bercer d'illusions. Nous osâmes le répéter à l'empereur que de confondre les intentions du ministère anglais avec celles de la nation anglaise. que la saine et froide raison commandait de repousser ses illusions et de se rappeler que la politique du cabinet de St. James avait été depuis 10 ans une politique pleine de haine pour la personne de l'empereur et que des ministres qui avaient soudoyé les conspirations incessantes du parti royaliste ne pouvaient recevoir l'empereur en Angleterre autrement que comme un trophée de Waterloo. Malheureusement, Gourgaud et moi, nous étions bien jeunes et nous avions à combattre des influences acquises de longue date, justifiées par des années du plus noble dévouement. La lutte de notre opinion contre celle du duc de Rovigo et du grand maréchal Bertrand était chose bien difficile. Nous fûmes battus, nous devions l'être. En sortant de ce conseil, Emmanuel de Lascazes et le général Gourgaud se rendent auprès du capitaine Frédéric Maitland pour lui faire connaître la détermination de l'empereur. Gaspard Gourgaud doit porter à Londres une lettre de Napoléon au prince régent. Rochefort le 13 juillet. Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé ma carrière politique et je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois que je réclame de votre Altesse royale comme celle du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. Le soleil du 15 juillet 1815 se lève. Napoléon revêt l'uniforme vert à collet parement écarlate de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale. Il choisit parmi ses différents ordres la grande croix de la Légion d'honneur, puis celle de la couronne de fer et se coiffe de son légendaire bicorne. Suivi de ses officiers en tenue, il monte à bord de l'épervier, un petit brick de guerre qui le conduit vers le Bellérophon, où l'attend le capitaine Maitland. Il est 6 heures du matin. L'empereur retrouve la terre ferme 3 mois et 2 jours plus tard à Sainte-Hélène. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, c'est Paolo Conte qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons un titre de 1984, Via con me.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Do 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 do, chi boom chi boom boom, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do. Thank you. con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Aujourd'hui, ce sera un livre seulement, un roman graphique consacré à un événement historique de première importance. L'attentat contre Adolf Hitler mené par le colonel Klaus von Stauffenberg le 20 juillet 1944. Le livre s'intitule « Hitler doit mourir ». Il est signé Thomas Oswald et Philippe Chapelle et il est publié aux éditions du Rocher. Le comte Klaus von Stauffenberg et son frère Berthold sont pétris de mythologie germanique. Ils rêvent d'une grande Allemagne relevée de l'humiliation du traité de Versailles. Inspirés par le poète romantique Stefan George, ils fondent l'Allemagne secrète dont la vocation est de recouvrer toute la puissance germanique. En 1926, Klaus von Stauffenberg entre dans la cavalerie. Le 26 septembre 1933, il épouse Nina Frelin von Lerchenfeld. Il prend rapidement ses distances avec le régime nazi et se rapproche des réseaux de résistance, dont ceux du comte Helmut James von Moltke et du commandant Henning von Treskow. Ses opposants souhaitent tuer Adolf Hitler. Une première tentative d'assassinat est envisagée en février 1943. Georg von Besselanger doit l'abattre lors d'une visite d'inspection. Au dernier moment, l'opération est avortée. Une seconde tentative échoue en raison d'un explosif défectueux. Le 7 janvier 1943, le colonel Klaus von Stauffenberg part pour la Tunisie. En février, il participe à la bataille victorieuse de Kasserine. En avril, il est sévèrement blessé lors d'une attaque aérienne. Il est rapatrié en Allemagne dans un état critique. Il perd un œil, une main et plusieurs doigts. Au terme de sa convalescence, il est nommé chef d'état-major de l'armée de réserve, placé sous les ordres du général Friedrich Röhm. Sa fonction lui permet d'accéder directement à Hitler. Le 20 juillet 1944, Klaus von Stauffenberg participe à une réunion au quartier général du Führer, la tanière du Loup, en Prusse orientale. Il y dépose une mallette contenant un engin explosif qui est déplacé par le colonel Heinz Brandt. Faute de temps, il n'active qu'une des deux charges explosives. L'explosion fait 4 victimes et d'importants dégâts. Hitler est blessé mais vivant. Persuadé de la mort du Führer, Klaus von Stauffenberg déclenche le plan Valkyrie qui prévoit l'intervention de l'armée de réserve pour protéger les institutions du Reich. À Paris et à Vienne, les SS sont arrêtés par les soldats de la Wehrmacht. À Berlin, le complot est rapidement éventé. Ses auteurs sont arrêtés et exécutés. Nina von Stauffenberg, qui est enceinte, est placée en détention au camp de Ravensbrück. Son beau-frère est détenu à Auschwitz. Le patronyme familial est banni par les nazis. Libérée à la fin de la guerre, Nina retrouve alors ses enfants. Elle décède le 2 avril 2006 à 92 ans. Je vous recommande tout particulièrement la lecture de ce remarquable roman graphique « Hitler doit mourir » signé Thomas Oswald et Philippe Chapelle. C'est publié aux éditions du Rocher. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en chanson avec toujours Paolo Conte et un titre de 1982, « Dancing ».
C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing. I ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre e perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da-di-da-da-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing. Si sono sempre più distratto e anche più solo e finto. E l'inquietudine e gli inchini fan di me un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. E dancing, da-da-da-da, dancing. Ah, dancing, da-da-da-da, dancing. Thank you.
Thank you.